des êtres humains. Le mot hébreu anachim signifie des hommes d'importance. Lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est un ish, et au pluriel anachim, ça veut dire que ce sont des gens importants. Dans notre problème, ça veut dire que l'un et l'autre se définissent comme des tzadikim, dans le sens que l'un et l'autre a accepté la souveraineté de la loi sur lui. Par conséquent, il s'agit de deux hommes qui sont tous deux de bonne volonté et qui, cependant, sont en querelle entre eux. Est-ce que c'est suffisamment clair comme définition ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas, a priori, le fait que l'un est rachar et l'autre est tzadik. Les deux sont présumés tzadikim, puisque les deux sont des hommes qui acceptent la souveraineté de la loi et qui en aucun cas ne voudraient agir en mal. Et cependant, il arrive que le jeu de la vie les mette en querelle. Les querelles graves sont les querelles entre justes, sont les querelles entre tzadikim. Donc c'est cette éventualité que le verset désigne. Lorsqu'il arrive qu'il y ait sujet de querelle entre deux hommes, entre deux anachim, ve nigeshu el hamishpat. Alors pour trancher et entre dans cette contestation, il faut un jugement, le mishpat, ushfatum, et ils seront jugés. Donc nous nous situons déjà après le jugement et après le verdict. Et le verset dit ve hitzdiku et tzadik. Ça signifie que les juges justifieront celui qui est le tzadik. Hirshiru est arracha et reconnaîtront comme coupable celui qui est coupable. Or, le Talmud nous dit qu'il ne s'agit pas des plaideurs, mais des témoins. C'est-à-dire dans le cas où, pour décider d'un jugement, il y a eu un témoignage qui était un faux témoignage. Et finalement, ce faux témoignage a été contesté par d'autres témoins qui ont rétabli la vérité. Alors, nous dit le texte, et il arrivera, si les témoins ont été vraiment convaincus de faux témoignages. Premier point, qui est déjà éclairé par l'analyse, le fait que le Talmud ne retient pas l'expression « Ve'itzdiku et tzadik virshu et arachar » au niveau des plaideurs, le fait que les juges auront à justifier le juste et à établir comme coupable le coupable, c'est parce que, comme nous l'avons vu dans les données du problème, les deux, a priori, sont des tzadikim. C'est une querelle qui arrive entre deux hommes, non seulement de bonne foi, mais deux hommes qui sont des justes. Et par conséquent, la différence entre tzadik et rachar est reportée au niveau des témoins. Mais c'est l'expression qui va nous frapper. « Ve'hitzdiku et tzadik ». Ils déclareront juste le juste. Mais s'il est juste, il n'a pas à être déclaré juste. Il y a donc ici la notion de justification qui apparaît. C'est-à-dire, bien qu'il s'agisse d'un tzaddik approximatif, eh bien, on ne peut pas le définir comme tzaddik au niveau du tzedek, mais en tout cas au niveau de la tzedaka. D'où le verbe « ve'hitzdiku » est un tzaddik. Ça veut dire que le juste est justifié par un minimum de vertu de cette justice absolue qui se nomme tzedek, mais qui, lui, ce minimum, se nomme tzedaka. Voilà, si vous voulez, le deuxième éclairage que je voulais citer par cette référence. Alors, je récapitule donc. Hier, nous avons distingué entre deux niveaux du juste, le tzadik selon Noir et le tzadik selon Abraham. D'autre part, apparaît une conduite de justice, de justesse, si vous voulez, qui consiste à être une charité qui sert de sacrifice d'expiation et du manque de la justice. Et cela, c'est la tzedaka. C'est-à-dire, dans une société où il n'y a pas de tzedek, le chesed vient compenser le manque de tzedek s'il est considéré comme un devoir d'expiation du manque de tzedek, et c'est la tzedaka, la justice charité. Mais d'autre part, il y a un deuxième niveau de la tzedaka qui, elle, concerne Israël, qui a reçu et accepté la loi, bien qu'à l'échelle individuelle, nous ne sommes jamais définitivement au niveau du tzadik, du tzedek, mais nous sommes toujours en conduite de justification par le fait d'avoir accepté la loi comme souveraine. D'où la différence de nature qui va nous être enseignée maintenant entre le juste selon Abraham et le juste selon Noar. Nous avons donc le texte du Maharal. Sur le problème suivant, et à partir du verset des Proverbes que je vous avais cité hier, Ve tzadik yesod olam, et le juste est le fondement du monde, une Mishnah du Pirkei Avot nous enseigne que c'est dans deux fonctions différentes suivant qu'il s'agit du juste de Noar et du juste d'Abraham. Je vais prendre d'abord la première feuille. Et nous allons suivre d'abord la Mishnah et ensuite les enseignements du Maharal tel qu'il a été souligné. Dans ce chapitre des Pirkei Avot, l'enseignement de la Mishnah analyse les différentes dimensions de la providence, c'est-à-dire de la relation entre le Créateur et la créature. Très rapidement apparaît comme catégorie fondamentale la notion de la patience, c'est-à-dire Erech HaPayim, en hébreu. C'est-à-dire le fait que l'histoire humaine se trouve à l'abri d'une certaine patience du Créateur. Et cette patience va nous être analysée à deux niveaux, suivant qu'elle a comme garant le tzaddik à la manière de Noar, ou suivant qu'elle a comme garant le tzaddik à la manière d'Abraham. Alors, première partie de la Mishnah, Asara dorot me Adam va Noar. Il y a 10 générations depuis Adam jusqu'à Noé. Les Hodia, pour nous faire savoir, Kama erech apayim nefana, combien il y a de patience devant Dieu, chez Kola Dorot Hayumach Isinubaïn, car chaque génération aggravait l'échec, c'est-à-dire était de plus en plus dans l'échec, de façon intentionnelle. Le terme qui est employé signifie révolte, de telle sorte de mettre le Créateur, si j'ose dire, en colère. Mach Isinubaïn, s'opposer au projet du Créateur. Al Chehevi Alehem et Ne Anabul. Jusqu'à ce qu'il ait fait venir seulement les eaux du déluge. Je reprends l'analyse de la Mishnah. La Mishnah entreprend de nous dire à quel point est grande la patience de Dieu. Puisque Dieu attend depuis la faute du premier homme, donc depuis la première génération, depuis la faute de la première manière d'être de l'identité humaine, jusqu'à la dixième seulement, jusqu'à ce que seulement le déluge a été envoyé comme sanction et comme punition de la conduite de l'homme dans cette histoire à travers les 10 générations. Et à la 10e génération apparaît Noar qui a donc été sauvé du déluge. Alors je voudrais d'abord analyser cette première partie de la Mishnah en posant la question suivante. Si la Mishnah entreprend de nous dire la louange de la vertu de patience du Créateur, de l'attribut de patience du Créateur, alors il semble qu'il y ait une contradiction, parce qu'il y a contraste entre la petite quantité de durée de 10 générations et d'autre part la notion de l'infini de la patience de Dieu. Tout se passe comme si la Mishnah finalement se contredit elle-même. Il y a eu 10 générations de Adam jusqu'à Noar pour nous faire savoir à quel point est grande la patience de Dieu, parce qu'il n'a envoyé le déluge qu'au bout de 10 générations. Mais l'expression 10 générations semble contredire l'enseignement même de la Mishnah. Est-ce que c'est suffisamment clair? La réponse du commentaire du Maharal est la suivante. En fait, la patience de Dieu est infinie. Et lorsque la Mishnah nous dit 10 générations, c'est pour nous dire les différentes manières de la modification de l'identité humaine dans un chiffre qui récapitule toute la multiplicité des manières d'être possibles de l'homme et que Dieu a attendu jusqu'au bout que toutes les éventualités de l'identité humaine soient épuisées dans l'ordre des engendrements, alors seulement ce qui n'a pas de limite, la patience de Dieu a trouvé sa limite parce que la limite est venue du côté de la créature. C'est le premier paragraphe dont nous lirons quelques lignes. Et il apparaît là une première forme de la patience divine, attendre avant de punir. Nous étudierons plus en détail le texte du Maharal qui nous explique que c'est cela qui est en quelque sorte la fonction salvatrice du juste selon Noah, c'est-à-dire le fait de retarder la catastrophe. C'est-à-dire la présence du juste à la manière de Noah ne peut pas sauver le monde de la catastrophe, mais la retarde. Elle est le fondement de la patience de Dieu ne voulant pas intervenir pour punir. C'est-à-dire, Dieu attend jusqu'à Noah, donc dans la catégorie de cet ordre de tzaddik, pour ne pas punir. Tandis que, deuxième partie de la Mishnah, « Asara dorot mi Noah ve'ad Abraham » il y a aussi 10 générations de Noah jusqu'à Abraham, « Lehodiyar kama erecha paim nefanav » pour nous faire savoir combien est grande la patience devant lui, devant Dieu, « Shekola dorot hayu machisin uvaim » parce que tout ces générations allaient de plus en plus en remue. Enfin, leur état s'aggravait, se dégradait. Acheva Abraham Avinu, jusqu'à ce qu'est arrivé Abraham, notre père, de Kibel Srach Kulam, et a récapitulé en lui le salaire, le mérite, le salaire, la récompense de toutes ces générations. Il y a une intention très précise dans cette Mishnah, de nous montrer la différence de zechut, de mérite, du tzaddik selon Noach et du tzaddik selon Abraham. Le tzaddik selon Noach ne peut pas sauver, il ne peut que retarder, sa protection est négative si j'ose dire, il ne peut que retarder le zaram, la catastrophe si vous voulez. Tandis que le tzaddik selon Abraham, sauver ce qui aurait dû être condamné. Voilà, je crois que nous arrivons là au point essentiel de l'analyse que je voulais établir ce soir, c'est-à-dire que la vertu du tzaddik en tant que fondement du monde est abri et garanti de l'histoire. Est très différente suivant qu'il s'agisse du tzaddik selon Noah, compte non tenu de la loi morale vraie, et alors un sursis est donné jusqu'au bout. Mais c'est un sursis qui retarde la destruction, et Noah, ce type de tzaddik, est sauvé par grâce. Tandis que le juste selon Abraham, non seulement retarde la catastrophe, mais sauve une humanité qui normalement aurait dû être détruite. Tout se passe comme si, et l'option d'Abraham a le résultat suivant. L'humanité de son temps est disqualifiée, et cependant elle est protégée par l'existence d'Abraham. Et c'est pourquoi nous héritons à partir d'Abraham comme une sorte de continuation des civilisations de ce temps qu'Abraham, par sa manière d'être tzaddik, a sauvé. Et cela encombre l'histoire d'Abraham, telle que la Torah nous la raconte. Le fait qu'Abraham était le tzaddik qu'il a été a fait que le salut a été donné au monde de son temps, et puis toutes ces manières d'être homme, qui cependant étaient disqualifiées, vont continuer à se développer, à entrer en rivalité avec la descendance d'Abraham, et en quelque sorte compliquer l'histoire. Eh bien, c'est le pouvoir d'Abraham de faire que le sursis soit donné jusqu'au bout, au-delà même de la manière dont le jugement, au temps de Noir, nous est raconté par la Bible, c'est-à-dire seulement un sursis négatif qui empêche, en quelque sorte, la catastrophe. Voici le point sur lequel je voulais arriver. Eh bien, je vous propose, avant que nous lisions les quelques lignes du Maharal qui vont nous confirmer, si vous voulez, de prendre la parole à votre tour, si vous avez des questions à poser sur ce que nous avons dit. Bon, il n'y a pas de questions ? Si.
Quand il y a encore une certaine difficulté à concilier les deux aspects du salut, Abraham, d'une part, dans sa fonction salvatrice positive, et d'autre part, le fait, par son apparition même, qu'il oblige à un Ishta, une fois la main, se donner le moment, il explique qu'au moment où Abraham se révèle en partant.
Bien. Vous avez entendu la question. C'est-à-dire, voilà. À partir du verset des psaumes, ça dit qu'il y a son dans l'âme, que le juste est le fondement du monde. Ça veut dire l'abri, la garantie. Je vais quand même reprendre un peu l'interprétation avant de reposer la question. Une histoire est en train de se faire. Il est évident que tant qu'elle se fait, elle n'est pas réussie. Que par conséquent, si l'histoire devait être jugée d'après les critères de la réussite, elle serait constamment disqualifiée. Tant que nous ne sommes pas arrivés au bout de la réussite messianique, l'histoire humaine ne peut être que condamnée. Par définition, puisqu'elle est en cours d'effort, et donc elle est encore approximative et relative. Et cependant, à chaque génération, les tzadikim, les justes, sont le garant de la possibilité de continuation de l'histoire. C'est-à-dire, ils suspendent le jugement, parce qu'ils sont déjà la preuve que devenir tzaddik est possible pour l'humanité entière, puisque tel ou tel homme le sont devenus. Bon, c'est dit de façon un peu schématique, je crois que vous le comprenez. Mais le Pirkei Avot nous a montré que la patience de Dieu a deux dimensions très différentes. Il y a une patience qui consiste d'attendre avant de punir, et il y a une patience qui consiste à attendre afin de pouvoir sauver. La patience qui consiste à attendre avant de punir est celle qui vient grâce au juste selon Noach, tandis que la patience qui consiste à attendre en vue de sauver est la patience qui vient grâce au juste selon Abraham. Et lorsqu'Abraham apparaît, tous sont sauvés, tandis que lorsque Noach apparaît, tous sont détruits et Noach seul est sauvé. Voilà la différence. Alors la question qui m'est posée, c'est comment se fait-il qu'alors que la manière d'être tzaddik d'Abraham est salvatrice de façon positive, dès que Abraham apparaît, ce que nous avons vu au début du cours, dès qu'Abraham apparaît, c'est là que Dieu décide de faire le jugement de Sodome et de Gomorre et de le condamner. Mais la réponse nous est donnée dans le plaidoyer d'Abraham. Et vous vous rappelez que ce plaidoyer consistait à dire, peut-être il y a 50 justes à Sodome et Gomorre, alors on peut sauver toute la ville grâce aux 50 justes, ce qui est vraiment de nouveau la définition du caractère positif de la fonction du juste comme sauveur. La présence du juste dans la ville protège la ville, en quelque sorte. Et alors, Abraham s'étonne, Dieu lui dit, je vais détruire Sodome et Gomorre. Et d'où ce verset important, Ahav tispe tzadik imrachar. Est-ce que tu vas, Abraham parle à Dieu, lui dit, est-ce que tu vas détruire, faire disparaître le tzadik avec le rachar? Vous me permettrez une petite parenthèse sur ce verset. Ahav tispe tzadik imrachar. Est-ce que tu vas détruire le juste avec l'injuste, le tzadik avec le rachar? Mais jamais Dieu n'aurait pensé faire une chose pareille, détruire le juste avec le rachar. C'est bien évident. Lorsqu'on voit les taramim, l'accentuation du verset, on s'aperçoit que le sens est un peu différent. Ça veut dire que lorsqu'une société humaine est telle qu'il est impossible de dire qui est tzadik, qui est rachar, parce que tout le monde est ambigu, ambivalent, un peu tzadik, un peu rachar. Ça veut dire, est-ce que tu as décidé de détruire celui qui est tzadik imrachar, qui est à la fois tzadik et rachar? Que les racharim doivent être détruits, Abraham l'admet. Mais quelqu'un qui est tzadik et rachar à la fois, est-ce qu'il faut le détruire? Et c'est effectivement dans la définition de l'identité de sursis. Tant que quelqu'un est à la fois tzadik et rachar, il est en sursis, puisqu'il est aussi tzadik. Mais voilà que Dieu dit, je vais détruire. Donc, d'où l'interrogation d'Abraham. Est-ce que c'était clair en hébreu? Tzadik et rachar. Vous vous rappelez, dans un autre épisode, lorsque Abimelech se plaint de ce que Dieu veut le punir, parce que il avait pris la femme d'Abraham en croyant qu'elle était sa sœur, et que Dieu se dévoile à lui pour lui dire, tu as fait une grave faute, je vais te punir. Voici comment Abimelech s'exprime. Hagoy gam tzadik taharog. est-ce que tu vas tuer une nation qui est aussi tzaddik? Regardez, entendez bien, gam tzaddik. Ils sont rasha'im gam tzaddikim. Ça veut dire il est rachar gam tzaddik. Il est aussi un peu tzaddik. Et alors, est-ce que tu vas détruire celui qui est aussi un peu tzaddik? Vous voyez où est le gam dans gam tzaddik? Eh bien, je reprends donc le problème. Abraham plaide pour Sodome et Gomorre et demande à Dieu s'il y a 50 justes, et finalement il s'arrête à 10 justes. Ça veut dire que s'il y avait 10 justes dans Sodome et Gomorre aurait été préservé, le sursis aurait continué. Mais il se dévoile qu'il n'y a pas 10 justes. Et le Maharal revient sur ce chiffre de 10 là aussi. C'est-à-dire qu'il est nécessaire qu'il y ait l'identité du juste au niveau de la collectivité. Et il va nous indiquer, sur un texte que nous lirons ensemble tout à l'heure, que précisément, la Mishnah nous a dit qu'Abraham a récapitulé tout ce qu'il y a d'identité de sursis dans l'humanité tout entière jusqu'à lui. Par conséquent, il est tout seul, tous les justes à la fois, et tout seul, il peut être le salut du monde entier. Tandis que là, nous avons avec Sodome et Gomorre un cas limite où la protection d'Abraham ne peut pas jouer. Parce que la manière d'être tzaddik à Sodome et Gomorre est celle de Lot. Et il s'établit qu'il n'y a que 9 personnes dans la famille de Lot. C'est-à-dire que des individus s'ajoutant à des individus, mais pas la collectivité. L'être du tzaddik n'affleure pas au niveau collectif, alors Sodome et Gomorre est disqualifié. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu à la question. Il y avait une autre question, je crois. Bien. Alors, si vous voulez, nous allons lire ensemble les quelques phrases du commentaire du Maharal qui enrichissent ce problème. Alors, prenez la page 1, les lignes qui sont soulignées. Veyesh le hakshot, et il y a objecté à la Mishnah. למה היה ערך הפעיל בדורו של נוח ושל אברהם עד 10 דורות דווקא לא פחות ולא יותר? C'est-à-dire l'objection que l'on peut faire à la formule de la Mishnah que l'immensité, l'infini de la patience de Dieu va jusqu'à 10 générations, c'est pourquoi cette patience va jusqu'à 10 générations, pas plus et pas moins. La réponse nous est donnée par le Maharaj, je la schématise. Ad 10 dorot, vous suivez toujours là où c'est souligné. Ad asara dorot, qui ad asara dorot yesh lomar ki beulai dor ze shehu dor bifnei atzmo yihyeh dor tzaddik. C'est-à-dire, il faut attendre le développement complet d'une identité d'une civilisation donnée. Chaque génération a son identité propre. Si vous voulez, pour faire une analogie, le 17e siècle, c'est pas le 16e, le 14e siècle, c'est pas le 19e. Et par conséquent, peut-être que le 14e siècle démérite, mais peut-être que le 20e siècle sauvera ce type d'humanité. Alors, donc, il faut attendre que se déploient toutes les virtualités d'un type d'identité donnée, de telle sorte que le jugement soit possible. Peut-être qu'une des manières d'être de cette civilisation-là justifiera l'ensemble. Et il faut donc, c'est vrai aussi à l'échelle de la destinée individuelle, c'est la notion du jugement dernier. Le jugement vrai ne peut être que le dernier des jugements. Il faut attendre qu'une identité disent ce qu'elle est jusqu'au bout de sa lignée pour que la lignée tout entière puisse être jugée. C'est-à-dire, tout se passe comme si toute une lignée est jugée par le dernier, celui qui sera présent au jugement, c'est-à-dire celui qui sera présent à la résurrection. Alors, d'où ce souci de laisser quelqu'un qui dira Kaddish. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et le Talmud a tout de suite répondu à l'objection qui vous vient à l'esprit, et ceux qui n'ont pas d'enfants, ils ont des élèves. Et c'est la même chose. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment une règle universelle. C'est-à-dire que tant que le développement complet de la virtualité d'être n'est pas dévoilé, on ne peut pas juger ce qui est à l'origine. C'est la fin qui montre ce qu'il y avait au commencement. Sopho more al trilato. D'où, et d'ailleurs c'est la définition même de l'effort de vivre. L'effort de vivre, c'est toujours l'effort de survivre, c'est-à-dire de durer. Parce que plus il y a, si vous voulez, la durée est en elle-même le sursis, afin d'améliorer le dossier. Et donc il fallait que 10 générations se développent. Et 10 générations, ça veut dire la totalité de la virtualité de ce type d'humanité. De Adam à Noir, il y avait une manière d'être homme, une certaine humanité. Et Dieu lui a donné tout le sursis de déploiement d'elle-même jusqu'à ce que le jugement arrive. De la même manière, pour les 10 générations jusqu'à Abraham. Vous voyez, tout de suite, nous abordons à cette notion de la différence de la nature de la patience de Dieu dans le sursis grâce au tzaddik. Alors, je reprends la phrase. Dorze shehu dor bifne atzmo yehi dor tzaddik. Vechen al kol dor vador min asara dor. Velachen, et c'est pourquoi Natan Hashem Yidbarach, Erech HaPaim Ad Asara Dorot, Be'ulai Dorze Yiyet Tzadik. C'est pourquoi lorsque Dieu donne sa patience, il la donne de façon infinie jusqu'à l'épuisement du déploiement d'identité d'une humanité donnée. Parce que telle ou telle manière d'être justifiera l'ensemble. Continuez le paragraphe suivant. Vechem, Mashericha Kadzuahu Afedorot Shayu Minoach Adabaham, et de la même manière, l'allongement de la patience, aussi pour les générations qu'il y a eu entre Noach et Abraham, Gam Mishpil d'avoir Zeberasmo, à la même raison, Shehaya Kadzuahu Marich et Asara Dorot, que Dieu attendait 10 générations, Beulai, afin que peut-être, Imatse Dorechad, se dévoile, une génération chez Yé Mechoulak Minarishonim qui soit différente des autres, c'est-à-dire de celle qui pêche. Et ce n'est qu'in extremis, si j'ose dire, qu'effectivement apparaît un juste qui justifie toute cette patience, et c'est Abraham, mais dans la deuxième dimension, c'est-à-dire la patience en vue de pouvoir sauver, et non pas seulement la patience en vue d'attendre avant de punir. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse en posant une question. Et qu'en est-il de notre temps? De quelle nature est cette patience dont on voit bien que le monde est à l'abri d'un sursis? Il a beau se conduire comme il se conduit, il y a un sursis finalement. Et qu'est-ce qui jouera? Est-ce que jouera le mérite du tzaddik à la manière de Noir, ou est-ce que jouera le mérite du tzaddik à la manière de Noir? C'est ça, au fond, un grand point d'interrogation de l'histoire contemporaine. Vous comprenez le sens de ma question? Comment vous répondez-vous?
À partir du moment où il existe un tzaddik, le mérite d'Abraham, est-ce qu'il existe un mérite du tzaddik d'Abraham?
Comment?
S'il existe un tzaddik, le mérite d'Abraham,
oui.
Son mérite est supérieur à celui du tzaddik
d'Abraham. Oui, mais c'est le... Oui, mais vous répondez à ma question par une question en disant si. Vous répétez la question.
Et si Israël existe?
Ah. Comment?
Si Israël existe, le tzaddik selon Abraham
peut exister. Oui, mais ça veut dire que ça dépend d'Israël. Ça veut dire que ça dépend d'Israël. C'est ce que vous voulez dire? Comment? Attendez, madame a dit tout à l'heure, si Israël est vraiment Israël, comme Abraham, par conséquent, existe l'identité protectrice d'Abraham, et le monde serait sauvé. Je mets ça au conditionnel parce que ce n'est pas encore la fin de la réponse. Bien entendu, mais en fin de compte, qu'il se dévoile que la lignée d'Abraham s'authentifie comme telle. Et pendant tout le chemin de l'engendrement, écoutez, reprenez bien l'histoire d'Abraham. Et Abraham sort de Ur Kasdim, parce que tant qu'Abraham est à Ur Kasdim est protégé par Abraham, et dès qu'Abraham sort de Ur Kasdim est détruite. Et Abraham vient dans le pays de Canaan et il s'installe dans le pays de Canaan, alors que Lot s'installe à Sodome et Gomorre. Là où n'est pas Abraham, il n'y a pas de protection et Sodome et Gomorre est détruite. Ça veut dire que la réponse n'est pas si simple. C'est là où est Israël qu'il y aura protection. Or Israël est Israël comme Israël. C'est compliqué tout ça.
Qu'arriverait-il si tous les Juifs désertaient les pays de la diaspora ?
Tu voudrais dire qu'à ce moment-là, les pays de la diaspora seraient sans protection ?
Exactement.
Oui.
Nous sommes, non pas dans la méta-histoire du Kabbalah, mais dans l'histoire, et que tous les Juifs désertent les pays de la diaspora.
Oui.
C'est sûr.
Et là, voilà, nous avons un autre enseignement. Maintenant, c'est les cauchemars. Nous avons un autre enseignement qui dit que lorsque Dieu veut punir une ville, et qu'il ne peut pas punir une ville parce que les tzadikim s'y trouvent, il s'arrange pour expédier les tzadikim hors de la ville, même s'il faut les expédier directement dans l'au-delà. Le texte est clair. Alors réfléchissez à tout ça. Comment ? Attendez, vous êtes un peu en retard encore. Mais j'essayais de dire juste le contraire. Ça s'est toujours passé comme ça. Écoutez. Écoutez, prenons l'histoire de Noah. Le monde devait être détruit, mais la promesse devait être réalisée. Eh bien, qu'est-ce que le récit nous raconte ? Que Dieu a suggéré le principe d'Archimède à Noah, de telle sorte qu'il sache construire une arche suffisamment, dont le cubage était tel qu'elle puisse flotter sur les eaux. Partout ailleurs, c'était détruit, et Noah a été préservé, l'humanité a continué à exister à travers lui. Alors, il est fort possible que l'humanité tout entière soit détruite, sauf un point d'elle-même qui serait l'arche de Noé. C'est ce que Dieu dit à Noé. Toi, tu es tzaddik, il faut que tu sois sauvé, alors enferme-toi dans une arche. Comment ? Non, la question est de savoir quelle est la nature du sursis qui joue aujourd'hui. Est-ce que c'est un sursis, pour reprendre les termes de la Mishnah, de la patience de Dieu qui attend avant de punir, ou un sursis de la patience de Dieu qui attend afin de sauver? Et nous voyons très bien, d'après cet enseignement, c'est que c'est là où se trouve Abraham et qu'il y a salut. Là où il ne se trouve pas, il y a destruction. Et ce que je disais, vous avez dit, c'est Israël. Que Abraham est Abraham, que chez Abraham. Vous savez comment l'histoire d'Abraham commence d'après le récit de la Torah ? Comment ? Il y a deux choses. C'est le fait que Israël soit vraiment lui-même. Alors, Israël est Abraham, dans cette catégorie, parce qu'Israël n'est pas Abraham, il est Jacob, Isaac et Abraham, c'est pas si simple. Alors, à ce moment-là, Israël est Abraham et la protection joue. Mais la protection joue que pour Abraham qui est Abraham. Et ce que j'ai ajouté, c'est que Abraham n'est Abraham que chez Abraham. Abraham qui n'est pas chez Abraham, c'est Lot. C'est Lot qui est à Sodome et Gomorre. Et Lot, à Sodome et Gomorre, n'est pas capable de sauver Abraham, de sauver Sodome et Gomorre. Pourquoi ? Parce qu'il n'est que sous forme d'individu, 9 et pas 10. Et c'est un peu la définition de la diaspora juive, c'est des ensembles de Kehilot. Mais le clan Israël n'est qu'en Israël. Et dans la diaspora, nous sommes à l'échelle individuelle. Bon, je vous dis des choses polémiques, mais réagissez. Ben, vous avez entendu la Mishnah. Dieu a donné un sursis total jusqu'à ce que Almenach et Oulai, que peut-être apparaissent. Ce peut-être s'est réalisé et Israël est apparu. Donc, disons Abraham. À partir du moment où Abraham est apparu, eh bien, le sursis s'est réalisé positivement. Je pense à toutes ces civilisations de l'Antiquité dont la civilisation contemporaine a reçu l'héritage et cet héritage handicape l'histoire humaine. Et ça, c'est le mérite paradoxal d'Abraham d'avoir servi d'abri et de protection à des préhistoires qui auraient dû disparaître. Oui. Par l'eau. Mais pas par le feu. Or, tout est prêt pour que ce soit par le feu. Ce sont les goyim eux-mêmes qui l'ont fabriqué.
Oui.
Écoutez, est-ce que vous pouvez reprocher à quelqu'un de s'enfuir d'une chambre à gaz? Ah, c'est un autre problème. C'est-à-dire, ce que le texte établit, c'est que Noir n'avait pas le pouvoir de sauver les autres. Vous étiez hier soir? Oui. Il n'est pas un tzaddik tel que sa protection salvatrice, disons, puisse être positive. Elle ne peut être que négative, retarder la fin. Abraham peut sauver. Mais je vous répète le chidouche, enfin la chose nouvelle que j'essaye de vous faire entendre, c'est qu'Abraham ne peut être celui qui sauve que chez lui. Comment ? Bien sûr, il y a d'autres tzadikim qu'en Israël, c'est les tzadikim des Bénénoirs. Mais le pouvoir du tzadik des Bénénoirs, et c'est ce que j'ai essayé d'établir par le texte, consiste à assurer la patience de Dieu de retarder le châtiment, enfin la destruction. Bien, on revient au problème précédent. Alors, deux questions. D'abord, qu'est-ce qu'ils font hors d'Israël? Et ensuite, est-ce que s'ils sont hors d'Israël, ils ont ce pouvoir d'Abraham? Les textes sont formels, absolument pas. Écoutez, en tout cas, ce que vous dites est très symbolique. Mais le dernier vote à l'ONU a montré qu'elle n'a même pas d'air. C'est-à-dire, je crois que nous devons très, très lucidement ouvrir les yeux sur la réalité, lucidement. Vous savez, ces textes sont très anciens, mais ils nous parlent des structures du monde qui jouent lorsque le moment est venu. Alors, si par postulat, on peut établir le diagnostic qu'effectivement nous sommes dans une telle situation où l'humanité, semble-t-il tout entière, a répudié la notion du tzedek comme étant la base de l'histoire, alors nous sommes en un temps de jugement. Et la question qui se pose à nous est de savoir en quel temps. Est-ce à la fin des 10 générations avec Noah ou à la fin des 10 générations avec Abraham? Et je voudrais simplement terminer ce rappel. Tous les textes du Talmud et du Zohar sont formels. Si ce temps du Zaham arrive, comment traduire Zaham ? C'est-à-dire de l'achèvement de la patience de Dieu arrive, eh bien, la protection de la Shrina ne peut jouer que chez elle. Je vous cite pas l'argent juif. Je vous cite la Torah. C'est pas exactement la même chose. Comment ? Par le déluge d'eau. Oui, par le déluge d'eau. Mais le Talmud ajoute, mais pas par le déluge de feu. C'est ce qui est extrêmement inquiétant, c'est que les arsenaux sont prêts au déluge de feu. Vous savez tout ça ? Oui. Écoutez, je vais vous dire ce que m'a dit un de mes maîtres à Jérusalem. Il dit voilà, si jamais ça se déclenche, eh bien la seule terre de refuge, c'est la terre de refuge. Et il y a une seule terre de refuge, c'est Israël. Donc, je vous cite comme je l'entends. Alors, il n'est pas Abraham. Si. Écoutez, je vous citer un enseignement de M. Levinas qui m'a beaucoup frappé en son temps. C'est ceci. Lorsque vous lisez l'histoire d'Abraham et l'histoire de Lot, ce sont deux histoires très parallèles, avec les mêmes vertus. C'est vraiment très parallèle. Faites la confrontation des deux histoires, vous verrez. Tout ce que fait Abraham, Lot le fait aussi, mais en caricature. Et M. Levinas s'exprimait de la manière suivante. Abraham, c'est le juif. Et Lot, c'est le sale juif. Alors, faites bien attention à ça. Ce sont des choses extrêmement importantes. Et on le sait. Ouais. C'est ça. Écoutez-moi, c'est pas le sujet, mais c'est très important d'en parler. L'autorisation a été donnée pour un temps fixé. À partir du moment où les signes apparaissent que c'est la fin de ce temps-là, il n'y a plus d'autorisation.
Mais on ne sait pas si ce temps est vraiment passé
officiellement. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que vous ne savez pas? Écoutez, réfléchissez à cela. Le signe le plus évident du temps du retour, c'est le retour lui-même. Réfléchissez à cela.
Tantôt vous évoquez le peuple d'Israël, tantôt l'État d'Israël. Je crois que même problème moral, si vous restez dans le domaine moral, c'est abstrait, c'est coupé malheureusement des réalités vécues à chaque génération. C'est votre position, enfin, c'est votre droit. Mais puisque vous restez au plan moral, je crois que c'est un peu trop, comment dire, la conséquence sur l'intellectuel, de comprendre. De parler tantôt d'Israël comme État et tantôt d'Israël comme réalité spirituelle. Quand vous parlez de Lot et d'Abraham, vous laissez entendre que le sale juif, Lot, c'est celui qui ne participe pas au destin collectif. Le destin collectif ne se fait pas dans la diaspora, mais en Israël. Malheureusement, quand même, on constate que peut-être c'est en se salissant les mains qu'on est traité de sale juif, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est.
Deux questions. J'ai attendu jusqu'au bout que vous disiez ce que vous alliez dire. C'est vous qui m'avez posé une question hier soir. que je puisse recoder les deux niveaux. Mais je crois que vous avez absolument raison. Vous comprenez, l'amalgame consisterait à attribuer à l'individu là où quel que soit l'endroit où il se trouve, l'identité collective qui est connotée dans le terme Israël. Maintenant, vous avez dit l'État. L'État, c'est autre chose. Et lorsque je vous parle d'Israël en Eretz Israël, il s'agit de la nation d'Israël. Cette nation à l'État qu'elle a. Si vous voulez, je vous dirai aussi d'une autre manière pour peut-être être plus clair. Les qualités des Israéliens, ce sont des qualités de Juifs. Les défauts des Israéliens, ce sont aussi des défauts de Juifs. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la différence entre une nation d'Israël qui n'est pas...